Radio Okapi. Le journal Pascal Massirika.
À la une de l'actualité ce midi au Nord Kivu, plusieurs civils kidnappés par des rebelles ougandais de l'ADF dans les territoires de Beni restent en captivité. La société civile redoute que ces personnes soient retrouvées mortes. 500 Jeeps de marque Hyundai achetés pour des députés nationaux. Des questions se posent autour de l'acheteur, de la provenance de l'argent, du mobile de cette dotation ainsi que des priorités de la République. Notre invité, c'est le secrétaire permanent de la commission de contrôle et de gestion des armes légères et de petit calibre qui vient d'organiser un forum sur l'évaluation de son plan d'action. Le colonel Patrick Combe affirme que la prolifération de ces armes crée l'insécurité dans l'est de la RDC. Madame, messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, plusieurs civils kidnappés par des rebelles ougandais de l'ADF dans les territoires de Beni restent en captivité jusqu'à ce jour. Le vice-président de la société civile dit craindre que ces personnes soient retrouvées mortes. Edgar Matesso appelle les FRDC à intensifier les fouilles pour retrouver ces otages. Ces derniers, dont plusieurs cultivateurs, étaient enlevés la semaine dernière lors d'une incursion de ces rebelles ougandais de l'ADF, notamment dans les villages de Kisanga, à Kitovo et Livano à cheval, entre le secteur de Rouenzori et la chefferie de Bachou. À Butembo, une correspondance de Grâce Amzati.
Ce sont plus de 30 civils qui sont enlevés par les rebelles de l'ADF dans le Graben. 14 seulement ont été libérés le week-end dernier. D'après la société civile, ces personnes libérées sont âgées et fatiguées, d'où sa crainte pour le sort des autres. Edgar Matesso, vice-président de cette structure citoyenne, explique.
Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas encore le sort d'une vingtaine d'autres personnes qui sont restées à Brousse. Comme en décembre 2020, nous craignons qu'on apprenne qu'ils sont déjà morts parce que ceux qui avaient été emportés par ces mêmes ADF dans la même région avaient été retrouvés déjà morts. Mais aussi notre crainte, c'est que comme aujourd'hui l'armée est en train de frapper ces ADF, nous craignons que le mode opératoire d'enlèvement ou de kidnapping soit encore un mode opérationnel des ADF. S'ils pouvaient les emporter juste pour se rechercher une main-d'œuvre ou des ressources pour renforcer leurs éléments.
D'autres sources dans la région indiquent qu'en dehors des deux femmes tuées lors de cette incursion, la zone est devenue inaccessible pour rechercher d'autres personnes. Contacté, le lieutenant Anthony Malouchai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, indique que les patrouilles de FARDC sont intensifiées pour retrouver ces otages. Butembo, Grâce Amzati, Radio Okapi.
La situation humanitaire reste préoccupante dans la chefferie de Tchabi et de Bahema Bouga, au sud du territoire d'Irumu en Ituri. Selon des sources locales, des milliers de déplacements qui ont fui, des milliers de déplacés qui ont fui les exactions des présumés rebelles ougandais de l'ADF manquent de tout. Plus d'une dizaine d'enfants sont déjà morts et une centaine d'autres sont en état critique, faute de structures médicales adéquates dans les différents sites. Les femmes enceintes accouchent dans leurs abris de fortune avec tous les risques de mortalité. C'est ce que nous raconte Isaac Remoyope.
Presque tous les habitants des chefferies de Tchabi et de Boga sont en fuite. À Tchabi, plus de 16 000 personnes se sont installées près de la base de la Monisco. Plus de 900 familles sont regroupées à Boussio et des milliers d'autres à Malibongo. Ces déplacés vivent dans des conditions extrêmement difficiles dans leur lieu de refuge. Il n'y a pas de structure médicale pour leur prise en charge. Selon le président des cités de Tchabi, des enfants meurent chaque jour de malnutrition, d'anémie ou de malaria. Ces battoirs et Banzé ajoute que 7 bébés sont déjà morts après l'accouchement dans les sites pour cause des manques d'expertise du personnel médical. Une situation qui inquiète d'autres femmes qui sont enceintes dans ces camps. Ces personnes déplacées recourent à la médecine traditionnelle pour sauver des vies en détresse. Les déplacés manquent également des vivres. Ils n'ont pas accès aux champs à cause de la présence des hommes armés qui circulent dans la zone. Ils demandent au gouvernement d'intervenir d'urgence. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC chargé des opérations et des protections, Kassim Diagne, qui était en visite jeudi dernier dans la zone, a promis de faire les plaidoyers auprès des humanitaires. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où 2000 sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo ont bénéficié de 10 tonnes de vivres et de non-vivres, dont des commerçants de la Fondation Zaina. La remise de cette donation a eu lieu hier dimanche à l'école primaire Afdi à Kanyaruchinya dans les territoires de Nyiragongo. Les bénéficiaires affirment qu'il s'agit là de la première assistance du genre depuis qu'ils sont revenus des différents milieux de leur déplacement. Goma, Bernard Denyangui.
L'école primaire Afdi héberge 454 ménages. Il s'agit de l'un des 6 sites où sont cantonnés les sinistrés de l'éruption du 22 mai dans le sud du territoire de Nyiragongo. Pour les bénéficiaires, le don de la Fondation Zaina constitue pour eux la toute première depuis leur retour dans leur milieu, suivant le témoignage de cette dame.
Depuis que nous sommes cantonnés ici, nous n'avons ni savon ni autre chose. Mais aujourd'hui, nous remercions de voir ces camions venir. Nous avons en permanence de l'eau et des médicaments.
Le porte-parole de cette association de commerçants indique que leur action est une réponse aux besoins exprimés par les sinistrés. Kimbom Nasi.
Nous avons amené du riz, farine de maïs, les sardines, les biscuits, avec les bidons vides pour mettre de l'eau. C'est pour soulager, tant soit peu, cette population. Parce que ce sont des Congolais comme nous. Nous sommes venus pour les appuyer et pour les accompagner.
Dans cette école, les sinistrés vivent dans des conditions sanitaires précaires. Le coordonnateur provincial de la protection civile indique que le projet de construction d'un site devant accueillir provisoirement les sinistrés dont les maisons avaient été détruites par le volcan est en cours. Sans d'autres détails, Goma, Bernard Dengangui, Radio Okapi.
84 tonnes de vivres et non-vivres, dont du président du Congo, Denis Sassou Nguesso, aux sinistrés de l'éruption volcanique de Goma. C'est la ministre des Affaires sociales qui a convoyé la deuxième cargaison qui a été remise hier dimanche aux autorités de la RDC à l'aéroport de Goma. Et puis le président Félix Tshisekedi Tshilombo poursuit son séjour à Goma. C'est après un périple qui l'a conduit successivement à Beni, à Butembo, puis à Bunia en Ituri. Son agenda n'a pas été rendu public et aucune activité n'a été signalée le week-end dernier. Mais selon des sources proches de la présidence, Félix Tshisekedi Tshilombo pourrait encore passer plus de temps au Nord Kivu pour faire le suivi de l'état de siège et des opérations militaires qui s'y déroulent. Autre nouvelle, 500 Jeeps de marque Hyundai venaient d'être achetés par la République démocratique du Congo au bénéfice des députés nationaux. Plusieurs questions se posent autour de l'acheteur, de la provenance de l'argent, du mobile même de cette dotation, ainsi que des priorités de la République. Dans une déclaration faite ce lundi à Radio Okapi, le président de l'ONG Azado, Jean-Claude Katende, juge cette dotation aux députés nationaux de la corruption, car n'étant pas prévue par le budget national, une position soutenue par quelques députés nationaux de l'opposition. En réaction, le bureau de l'Assemblée nationale précise dans un communiqué parvenu ce matin à Radio Okapi que les 500 véhicules ont été commandés par l'Assemblée nationale et tous les députés nationaux en seront bénéficiaires, et ce, suivant les us et coutumes relatives à une gestion orthodoxe de la chose publique. Explication avec vous, Michel Kifinangoy.
Dans sa déclaration, le président de l'Azado dénonce ce qu'il qualifie de pratiques de corruption à travers l'achat de 500 véhicules au bénéfice des députés nationaux. Jean-Claude Katende.
Nous partons de la déclaration faite par le président de l'Assemblée nationale qui a dit que ces jeeps viendraient du président de la République. Ces jeeps n'émergent pas du budget de l'État. Offrir des jeeps à des personnes qui sont déjà mieux payées peut tout simplement être assimilé à de la corruption.
Le député Jean-Baptiste Moindo désapprouve cette pratique et décline l'offre.
Je ne suis pas preneur pour ces jeeps dont le président de l'Assemblée nationale dit constituer un cadeau offert par M. Félix.
En réaction, la cellule de communication de l'Assemblée nationale dénonce ce qu'elle qualifie de mauvaise foi d'une certaine classe politique en mal de positionnement. Si l'actuelle dotation est basée sur la corruption des députés nationaux de l'Union sacrée, devrions-nous conclure que la famille politique du chef de l'État compte 500 députés ? S'interroge Christophe Mbosso, qui rassure détenir des preuves attestant que les 500 jeeps ont été commandés par l'Assemblée nationale. nationale en faveur de tous les députés.
Merci Michel Kifinangoy pour ces précisions. Politique encore, le démocrate, parti de l'opposition extra-parlementaire, dénonce les immunités des députés nationaux érigées selon son président en impunité contre l'intérêt général du peuple congolais, faisant suite au refus de la majorité au Sénat d'autoriser les poursuites judiciaires contre ses membres. Le président de ce parti politique parle d'un coup dur à la justice qui met en mal le bien-être des Congolais autour de la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Alexis Mongamandé appelle à l'éveil patriotique. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Les sénateurs, oubliant leur rôle dans l'avenir des Congolais, se sont illustrés par l'insuffisance de leurs votants majoritaires dès mardi 15 juillet 2021, date historique qui restera dans les annales en faveur de la protection des intérêts personnels de l'un de leurs compères enrichis de façon illicite en la personne de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Ce qui rappelle à la mémoire des Congolais l'ignote des dinosaures impunis des tristes mémoires. Tout se passe comme si, oubliant leur mission, d'une part, ces accoutumés à l'impunité dominent plus une institution comme notre Sénat, de l'Union dite sacrée, dernier rempart des intérêts du peuple. Ce vote qui a loupé la consolidation de la démocratie et l'émergence d'un état de droit illustre une fois de plus que le mal congolais et ses fléaux de corruption et de compinage politique sont toujours là. En eux, malgré les changements des caps voulus et clamés sans réalisation par l'actuel locataire du Palais de la Nation.
Autre nouvelle sur Radio Okapi au Maniema, le coût des vies devient de plus en plus intenable à Salamabila, en territoire de Kabambaré, depuis le retrait, il y a 2 ans, de la société minière Banro. Les produits de première nécessité en provenance de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu voisin, n'atteignent plus Salamabila par la route. L'entretien routier était assuré par cette société minière qui a suspendu ses activités suite à l'insécurité dans la zone. Tous les transports se fait par voie aérienne, un luxe qui n'est pas donné aux paysans, mais aussi aux petits commerçants. Jean Kassami Baralibirou revient de Salamabila. Voici son reportage.
L'activité agricole intéresse moins dans la région minière de Salamabila. La majorité s'adonne à l'exploitation artisanale de l'or. Les prix des denrées de première nécessité montent comme les reconnaît cet habitant.
Pendant le temps que Bando travaillait, quand même il arrangeait la route qui facilitait de déplacer les produits de Bukavu jusqu'à Salamabila. Là, les prix étaient un peu bas. Par exemple, les sachets de serre coûtaient entre 700 et 800. Mais aujourd'hui, à cause des mauvaises routes, les petits sachets de serre coûte maintenant 2000 francs à cause des mauvaises routes et des tracasseries routières des militaires.
Pour épargner la population de ces coûts de vie devenus intenables, il faut réhabiliter les routes nationales 5 et 2. Une responsabilité que le gouvernement provincial ne cesse de rejeter au gouvernement central. La société minière Banro, qui commençait à s'occuper de l'entretien de cette route, n'a pas résisté à l'insécurité créée par un groupe de jeunes du milieu qui réclament un espace minier exclusivement réservé à la population. Le bourgmestre de la commune rurale de Salamabila reconnaît que l'économie de son entité repose sur les investisseurs miniers à qui il souhaite la bienvenue, mais dans le strict respect du cahier des charges élaboré par la communauté. Des retours de Salamabila, Jean Kassami, Radio Okapi.
Santé à présent, lutte contre le coronavirus dans la province du Kwilu. Les gestes barrières ne sont pas respectés dans plus de 80% d'écoles d'Idiofa 1. C'est ce qui ressort en tout cas de la tournée qu'a effectuée depuis plusieurs jours le chef de cette sous-division, Cyril Iloloubé. Il pense que cela est dû principalement au manque de dispositifs de lavage de mains. Il demande par conséquent au gouvernement d'assister au plus vite ces écoles en matériel nécessaire pour protéger les élèves contre la troisième vague de cette pandémie. Irène Mboma.
Au cours de cette tournée dans les écoles tant primaires que secondaires de sa juridiction, le chef de la sous-province éducationnelle du Diofa Centre dans les territoires des mêmes noms a constaté que parmi les 398 écoles que compte cette sous-division, les gestes barrières contre le coronavirus ne sont correctement respectés que dans les 55 qui sont appuyés par l'UNICEF qui les a dotés de tous les moyens nécessaires pour protéger les élèves contre cette pandémie. Tandis que dans le reste des écoles non appuyées par l'UNICEF, Cyril Iloloubé a alerte qu'il n'y a aucun respect de ces mesures barrières, faute de dispositifs de lavage des mains ainsi que des masques de protection. C'est ainsi qu'il en appelle à la responsabilité du gouvernement tant provincial du Kwilu que national afin de protéger les enfants de ces coins contre la troisième vague de la COVID-19 en cours.
La troisième vague, elle est vraiment terrible, vraiment dangereuse. Si le gouvernement fait revenir, ça nous a loué avec des dispositifs de lave-mains, des cache-mains pour que ceux qui ne sont pas sous l'égide de l'UNICEF en bénéficient. Si le gouvernement peut y penser pour sauver un peu cette jeunesse.
Notez que toujours dans le cadre de cette ronde dans les écoles, Cyril Iloloubé a rappelé à l'ordre les différents chefs d'établissement sur certaines instructions, notamment la gratuité de l'enseignement de base. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Union européenne a décidé ce lundi matin d'imposer des sanctions à sept secteurs économiques de la Biélorussie pour affecter les sources de revenus du régime d'Alexandre Loukachenko. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui à l'agence France Presse deux diplomates après l'adoption de la décision par les ministres des Affaires étrangères réunis à Luxembourg. La décision a été approuvée à l'unanimité, a précisé un des participants à cette rencontre. Ces mesures économiques sanctionnent les déroutements d'un avion de Ryanair pour arrêter un journaliste et la répression de l'opposition.
L'invité.
Notre invité, c'est le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle et de gestion des armes légères et de petit calibre qui vient d'organiser à Kinshasa un forum sur l'évaluation de son plan d'action. Le colonel Patrick Kombe affirme que la prolifération de ces armes est l'une des sources de l'insécurité dans l'est de la RDC. Le colonel Patrick Kombe s'entretient avec Jean-Pierre Elali Koko.
Colonel Patrick Kombe Katamboué Y, bonjour.
Bonjour monsieur Jean-Pierre.
Nous venons d'assister à un forum sur l'évaluation à mi-parcours du plan d'action national quinquennal 2018-2022 sur le contrôle et la gestion des armes légères et de petit calibre en RDC. Forum précédé par un atelier sur le même thème. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir d'une manière générale de ces travaux ?
Un atelier qui visait l'évaluation du plan d'action national. Pourquoi évaluer ce plan d'action national ? Parce que tout simplement, en 2012-2016, il y a eu autre plan qu'on avait mis en place qui n'a pas répondu aux objectifs et nous l'avons reconduit par un autre de 2018 et 2000 qui doit s'achever en 2022. Nous sommes maintenant en 2021. Nous tendons vers la fin. Alors nous avons cherché à évaluer le plan d'action national pour savoir qu'est-ce qu'il nous reste à faire, quelles sont les priorités à mettre en place.
Et qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'est pas encore fait jusqu'à l'horizon 2022?
Il y a beaucoup de choses qui ont été respectées dans la plupart des lignes du plan d'action national. Nous avons mis en place de désarmement civil volontaire. On a collecté des armes dans des provinces qui étaient en conflit. Nous avons mis en place le système de marquage d'armes qui vise à tracer les armes pour faire porter une nouvelle identité. Et puis, nous avons mis en place des cellules de travaux avec des partenaires et l'implantation des antennes provinciales.
Les défis sécuritaires en RDC sont liés notamment à la prolifération et au trafic illicite des armes légères. Quelles sont les actions prioritaires que la CNC-ALPC propose au gouvernement pour éradiquer la violence, surtout dans l'est du pays?
Dans un premier temps, j'aimerais vous faire comprendre le besoin et la priorité. Pas de la CNC, mais du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, son Excellence Asselo voudrait s'accaparer de la lutte contre la prolifération, son cheval de bataille, parce que ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Alors, il recommande à la CNCLPC, comme le chef de l'État l'a défini, qu'il doit nous donner une paix durable, parce que notre combat, c'est de restaurer la sécurité communautaire. Ce qui fait que nous sommes obligés de respecter scrupuleusement ce que nous avons mis en place dans le... Parce que le plan d'action national dit tout. Ce sont des actions que la CNCLPC a visées pour pouvoir rétablir la sécurité selon les recommandations du gouvernement.
Donc il faut lutter efficacement contre le trafic des armes légères et de petit calibre.
Hein? Exactement. C'est ça le combat de la CNCLPC, mettre en place des actions prioritaires, disons, retracer les armes étatiques et non étatiques, la construction des armureries pour la bonne gestion des armes et des munitions qui répondent aux standards internationaux, mettre en place des cadres de collaboration avec tous les partenaires, parce que le problème de la sécurité, c'est un problème associatif.
Voilà, alors revenons au forum. L'une des recommandations a trait à la ratification par la RDC de la Convention sur le contrôle et la gestion des ALPC, des conventions de Kinshasa. Pourquoi alors la RDC n'a-t-elle pas jusqu'à présent ratifié une convention qui a été élaboré ici même dans sa capitale? Certains considèrent cela comme une faiblesse de la CNC et par ricochet du gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous en dites?
Non, non, M. Jean-Pierre, je peux vous dire que ça, c'est un problème déjà réglé. La CNC-ALPC, qui est un organe gouvernemental et qui est là pour la coordination au niveau ministériel, a déjà travaillé sur ces points-là depuis longtemps. Il ne reste tout simplement que le seul papier qui va être signé et transmis aux Nations Unies pour pouvoir prouver que la RDC fait déjà partie de cette convention-là.
Colonel Patrick, un mot sur la collaboration et l'appui des UNMAS, les services antimines des Nations Unies.
De ce côté-là, je ne peux pas me voiler la face. Merci beaucoup à Mme Fadoua, qui est la directrice responsable du programme de UNMAS, pour le soutien de cette structure et toute son équipe qui travaille avec nous au quotidien. Il nous apporte un soutien indéfectible parce que la plupart des actions que nous sommes en train de mener n'eût été l'appui de UNMAS. Franchement, je me poserais la question, on mettrait peut-être la clé sous la paillasson.
Colonel, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Jean-Pierre.
L'invité de Radio Okapi, c'était le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle et de gestion des petits calibres et des armes, les armes légères et des petits calibres. Le colonel Patrick Kombé était interrogé par Jean-Pierre Elali Koko et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Élisée Ticota qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelekipe Lamondo. Retrouvez ce journal sur www.radiookapi.net et sur les différentes plateformes numérique de Radio Okapi. Dans quelques instants, le sport.